France Inter.
Le masque et la plume. Un tour du monde sur des Stax, une disparition dans les Adirondacks, une plongée au fusain dans le Berlin hitlérien sur la jeunesse de M. le Maudit, des nouvelles prix Goncourt, un premier roman prix Goncourt, le masque est bardé de prix ce soir, 4 as pour en débattre, Hubert Artus de Lire Magazine et du Parisien Weekend, déjà applaudi, Laurent Chalumeau tel qu'en lui-même, Alice Develay du Figaro Littéraire, et enfin, Jean-Marc Proust de Slate. Aujourd'hui donc, il sera question de photos sur demande de Simon Chevrier, les piliers de la mer de Sylvain Tesson, l'étrangeté de Mathilde T et autres nouvelles de Kael Octavia, le dieu des bois de Lise Moore et de Crimi d'Inker et Vermeaux. Alors, bienvenue à toutes et à tous. Les lectures de l'été, c'est une histoire de plumes sur France Inter. Peu de courriers, bien sûr, en ce mois d'août, vacances obligent, mais quand même beaucoup de messages sur un seul livre qui déclenche les passions, Clamsay à Tataouine, le best-seller du comédien Raphaël Quenard. Manifestement, vous êtes déchaîné. Dominique Violin de Saint-Nazaire, programmer le livre de Mister Quenard, est-ce bien raisonnable? Déjà, en tant qu'acteur, c'est toujours le même jeu. Je pense qu'il y a de vrais auteurs à découvrir plutôt que de parler de ce personnage qui n'a pas besoin de vous. Coquelicot de Brest déclare, n'est pas Frédéric Dard qui veut Olivier Dubot de Sanguinet à... Que je l'attendais, votre critique de Clamsay à Tataouine. Et comme je vous connais bien, j'étais bien évidemment sûr que vous désingueriez le livre avec la diplomatie et la finesse qui vous caractérisent. J'ai adoré ce livre. Il a la force de faire entendre la langue de son auteur. Vous critiquez la construction paresseuse. Un chapitre, un meurtre. Agatha Christie n'a pas fait mieux dans son best-seller « Dix petits nègres ». Bien sûr, avec Quenard, on n'est pas dans le rayon de la grande littérature intello que vous défendez de plus en plus cette saison du masque. Mais on ne peut pas vous laisser saper l'envie qu'un lecteur peut avoir de lire ce roman qui propose un plaisir simple et gourmand de lecture. Allez, ne soyez pas chafouin, je vous aime quand même. Au passage, j'en profite pour vous dire que je trouve bien trop rares vos émissions sur le spectacle vivant. On est bien d'accord avec vous, cher Olivier. Avec Les piliers de la mer de Sylvain Tesson, best-seller chez Albin Michel, une aventure de plus pour cet écrivain voyageur, explorateur existentiel. Après À la recherche de la panthère des neiges, après le ski dans Blanc en 2022, après la navigation dans Avec les fées en 2024, c'est l'escalade qui met cette fois en mouvement le nouveau texte de Sylvain Tesson, l'escalade des Stax. Les Stax, ce sont des pitons nés de l'érosion marine. Des sentinelles de roche, métaphorise Tesson, qui se rend en Grèce, qui se rend au Vietnam, en Irlande, l'île de Pâques, les Marquises, pour grimper pas moins de 106 Stax. Des voyages qui lui permettent de rencontrer une petite foule de personnages extraordinaires, car c'est bien connu, on ne voyage jamais seul. Alors, l'exercice physique se double bien sûr d'une réflexion, comme il avait pu philosopher le blanc. Il esthétise cette fois le Stax, je le cite, « ultime refuge, l'écueil de la dernière chance pour les oiseaux parano et les âmes errantes, c'est-à-dire tout être normalement constitué ». C'est-à-dire Sylvain Tesson lui-même qui sculpte son autoportrait rocheux. J'ajouterai aussi quelque chose qui m'a quand même frappé. Il va donner des noms, il va baptiser ces piliers de la mer pour une cartographie affective et littéraire du monde. Il y a par exemple Cédar Senghor pour un Stax en Afrique du Sud ou encore Shanilouk pour un Stax en Irlande. Shanilouk, le nom de l'otage israélienne enlevée, assassinée par le Hamas dans un tunnel à Gaza en mai 2024. Le livre est dédié à son père, Philippe Tesson, qui, je cite, « avait horreur du vide ». Et toi, Hubert ?
Sylvain Tesson, c'est toujours un peu à moitié, parce qu'on ne peut pas minorer sa grande langue, on ne peut pas minorer que c'est quelqu'un qui, lorsqu'il voyage, c'est un écrivain voyageur, au sens des voyageurs romantiques, Chateaubriand et Nerval du terme. Hein. C'est un voyage mondial, en haut, c'est le cas de le dire, et en large, parce qu'il y a aussi des passages intéressants sur comment ce qu'il approche, ces Stax, parce que la plupart sont quand même interdits d'approche par les autorités, donc il faut aussi y aller.
Ah oui, c'est une véritable aventure. Ouais.
Voilà. Mais le problème, c'est que comme c'est un voyage intérieur est revendiqué comme tel. Là, on a la fameuse métaphore de l'écrivain voyageur romantique et naturaliste qui marche à fond. Hein. Les méandres extérieur du monde qui ressemble au méandre intérieur, et je vais pouvoir faire l'allégorie entre les deux. Ça, de ce point de vue-là, Tesson, il coche toutes les cases, il l'a toujours fait, et là, il le fait bien. Le problème, c'est que à force de dépeindre les stacks, de les approcher, et effectivement, c'est 106, eh ben, ça y va toujours de sa description, de sa façon de dire à quel point un stack c'est beau, que un stack c'est un résistant, que c'est un doigt d'honneur que la géologie adresse au principe de masse, que dans la panoplie géomorphologique, il représente la figure du seul contre tous, incarné dans l'ordre anthropologique par le long carrousel des hommes irréguliers. Bon, il y a un moment où il se regarde quand même écrire, et là, pour le coup, à force de aller et revenir sur 106 stacks, il y a un moment où c'est trop. Et c'est dommage, parce que je ne sais pas si c'est un problème de trop grande liberté de l'auteur qui n'est pas assez édité avec autorité. Et c'est dommage, parce qu'il se tire dans le pied lui-même, il se regarde trop écrire, alors que c'est diablement bellement écrit. C'est le seul écrivain voyageur au sens romantique qu'on ait.
Jean-Marc, moi j'ai trouvé ça affligeant, vain, prétentieux et répétitif. Comme tu dis, il y a 100
que d'adjectifs pour un seul livre.
Ouais. Il va de stack en stack. Donc c'est, j'ai tout de suite pensé à stackanoviste. Ok, le jeu de mots est fait. Je résume le livre. Donc il monte sur des pitons, sur des rochers. Il leur donne un nom généralement un peu compliqué. Il a son dictionnaire des citations et il déclame du Hugo, du Goethe, du Flaubert, du Proust. Il n'est pas monté pour déclamer du Guillaume Musso ni du Raphaël Quenard. C'est le côté que j'ai trouvé un petit peu prétentieux. Et puis, il y a des phrases comme ça. J'ai tout de même emporté Peggy pour commenter les lignes de fuite.
Ah oui, Peggy, c'est merveilleux.
Franchement, c'est n'importe quoi. Il est avec ses potes et ils disent « Est-ce que Hugo est stack ? Flaubert est-il stack ? Non. Baudelaire est-il stack ? » Enfin, vraiment...
Tu schématises un peu. C'est pas que ça.
C'est pas que ça, heureusement. C'est de la philosophie.
C'est plus naturaliste que ça, quand même.
Un orbe cosmique structure le petit comme l'immense, le coquillage et la galaxie. Enfin voilà, c'était un peu n'importe quoi. Et puis il y a quelque chose.
Il y a des citations quand même ailleurs.
Il y a des citations ailleurs, mais j'ai évidemment choisi les pires. Après, il y a quelque chose. Tu parles d'écrivain romantique. Moi, j'ai vu plutôt l'écrivain explorateur du 19e siècle. C'est-à-dire qu'il y a un côté
Je veux conquérir
le monde centimètre carré par centimètre carré. Et d'ailleurs, il s'en.
Et je le baptise d'ailleurs.
Ouais. Et il le baptise et il s'approprie le monde. Je pense qu'il a cramé pas mal de kérosène, alors que Jules Verne faisait plutôt ça dans son bureau. Et surtout, me semble ça ressemble au tourisme de masse dans ce qu'il a de pire, c'est-à-dire la Croatie on l'a fait, la Grèce on l'a fait, l'année prochaine on va faire l'Allemagne et puis après on ira faire le Portugal. Et là il fait un stack, il descend, il fait le suivant, il prend l'avion, il prend le bateau. Donc j'ai trouvé ça franchement assez déplacé, mais j'ai trouvé une grille de lecture à un moment donné.
Tu me rassures.
Le livre est dédicacé à son père.
Exactement, qui a horreur du vide, c'est pour ça que je l'ai cité. Ouais.
Je me suis dit pourquoi il s'obstine à grimper sur des symboles phalliques en pleine mer en dédiant le livre à son père. Et là, tout de suite, la grille de lecture m'a ouvert des perspectives folles, parce que...
Tu veux dire qu'il y a des pénis paternels disposés comme ça
absolument.
Dans la mer,
le stack intérieur.
Écoute les citations.
Quel lacanien.
Le stack est une quenouille magique. La tête chauve du stack. La hauteur du stack ne détermine pas sa beauté. La houle le lave. Il tient bon, se dresse, s'étrécit.
C'est bon, j'ai joui.
On est comme dans, on est dans bon, une vraie pantalonnade. Le ressac le lèche, le polie, le sculpte, creuse un orifice entre ses deux versants. À chaque percussion, le ressac se décharge par l'orifice étroit.
Eh bien oui, c'est érotique.
C'est totalement érotique et je me suis dit, c'est peut-être une immense métaphore, une pantalonnade qu'on n'avait pas vue au lieu d'être un récit d'aventure.
Alice, est-ce que tu participes de cet érotisme flamboyant ?
Moi, je vous trouve un peu dur en général, mais je vais couper la poire en deux. Moi, je trouve qu'il est assez représentatif au début du livre de cet écrivain, peut-être du 19e, comme on l'a cité, du 20e siècle, dans la littérature française, c'est-à-dire que c'est très beau, mais c'est très chiant. C'est-à-dire que moi, en l'occurrence, quand on me parle de stack, donc je ne vais pas parler de pénis, mais je vais parler de stalactite ou de stalagmite, en l'occurrence, pardon, c'est dans ce sens-là.
Oui, parce que ça monte.
Concrètement. M. Ouais, voilà, exactement. En fait, j'en ai rien à faire. Mais c'est là où je trouve que Tesson, il est vraiment génial dans son genre, c'est qu'il rend quelque chose de vraiment beau, quelque chose qui était chiant. Et j'ai fini par m'intéresser au sujet et j'ai même relevé, moi, des citations qui étaient peut-être un peu moins gionesques, on va
j'admire
dire ça comme
cette
ça.
Indulgence.
Voilà, la mer se rue contre la terre. Quand on tombe d'un stack, au moins la stèle est déjà dressée. Les cormorans se sèchent au ras de l'eau, on dirait des prêtres après le bain. Et en fait, moi, ce qui m'a plu dans le livre, c'est qu'il transcende complètement un sujet. Et j'ai envie d'être emportée par Tesson, parce que je me dis, il peut écrire sur n'importe quoi, ça ne m'intéressait pas. Mais j'ai été emportée. Après, je reviens en effet sur ce que tu disais, Hubert. C'est vrai qu'on le regarde écrire.
Il se regarde écrire, c'est le problème.
Mais c'est lui, c'est un miroir. Regardez-moi, je suis brillant. Et c'est vrai que le côté, peut-être, citation... collection d'aphorismes, ça a quelque chose de désagréable. Mais bon, voilà, il est brillant, il nous le montre, il nous le prouve, et ça marche.
Laurent, je te regarde et
ça pourrait être déjà... vachement bien. Ça aurait tout pour être vachement bien.
Mais il y a des trucs vachement bien.
C'est pas le styliste du siècle, mais c'est pas grave. Justement, le sujet, tellement excitant, fait tellement rêver, enfin le principe est tellement engageant et délicieusement régressif que ça devrait compenser. Le problème, c'est qu'il ne peut pas s'empêcher de tout gâcher, de mon point de vue, en truffant ça d'aphorismes misanthropes et libertariens, qu'il prend, lui, pour de la philosophie, de l'eau la plus pure, et qui sont juste un robinet idéologique d'où fuit, de mon point de vue, des eaux usées. Pour quelqu'un qui s'est fait connaître en célébrant les félins sauvages, moi je trouve que son attirail poétique et politique fait davantage penser à la patrouille des éléphants dans le Livre de la Jungle, plutôt qu'à Bagheera la panthère. Et sa phrase, un peu comme dans la chanson du même film, sa prose chemine pesamment quand elle ne produit pas des barrissements stridents. Vous vérifierez en réécoutant la chanson, vous verrez de
tout me revient. De quoi je parle. Tout me revient, tu sais, moi, je suis un éternel enfant.
En lisant certaines pages, alors effectivement Peggy au Cap Horn, ça, je me suis dit, le truc a toujours gardé présent à l'esprit à propos de cet Olibrius, c'est qu'il est tombé sur la tête, avec des séquelles visibles que l'on sait, mais il y en a d'autres qui resteraient secrètes s'il ne publiait pas. Or voilà, il publie.
C'est Docteur Laurent qui parle.
Oui, mais ce n'est pas parce qu'il publie qu'on est obligé de le lire. Donc si vous avez la chance de ne pas y être contraint parce que vous participez à une émission de radio, surtout abstenez-vous.
C'est ta conclusion. Toutes les métaphores sur les barrissements pour arriver à cette conclusion qui est un règlement de compte. Les piliers de la mer de Sylvain Tesson, apparu aux éditions Albin Michel. On poursuit le voyage avec l'étrangeté de Mathilde T, signée de l'écrivaine martiniquaise Gaëlle Octavia, aux éditions Gallimard, prix Goncourt de la Nouvelle, pour ce recueil qui en compte 16. Des histoires de couple, comme dans Le Mouvement ou la Mort, c'est le renversement de situation entre une femme plus âgée que son séduisant et sportif compagnon qui, à la suite d'un AVC, devient un vieillard prématuré en fauteuil roulant. Des histoires de femmes, comme par exemple cette mère de famille qui pète un câble suite à des propos racistes dans Violente, ou une autre, c'est ma préférée, qui s'invente une ennemie imaginaire. Il y a aussi des histoires d'hommes, comme ce H-U-N, un type ordinaire d'une écrasante banalité, au point qu'il s'était lui-même surnommé le 1, parce que, disait-il, dans la vie, et je cite, il y a deux sortes de gens, les uns et les autres, et que ça n'arrive qu'aux autres. Alors, il arrive plein de choses dans ces nouvelles qui, au détour d'un personnage, prennent à bras-le-corps des questions de racisme et de mépris de classe. Gaëlle Octavia, c'est intéressant, elle a commencé avec un diplôme d'ingénieur en télécom. Et au moment où elle allait être titularisée, en plein entretien, elle dit « Je démissionne » pour ne pas passer à côté de ce qu'elle savait que devait être sa vie, écrire. Alice, que t'inspire ce destin de femme?
Bah, je suis désolée si elle a tout abandonné pour écrire. Il faut peut-être qu'elle change encore, parce que vraiment...
Elle est mathématicienne, par ailleurs.
Ah bah, c'est très bien qu'elle y retourne. Non, mais quand on lit ce livre, on comprend pourquoi le genre de la nouvelle ne fonctionne pas en France, parce que ce livre est nul. Je suis désolée, il faut que je le dise comme ça. Moi, j'aimerais qu'un jour, le Goncourt ait vraiment du courage et se dise, oh, vraiment, là, parmi tous les livres qu'on a reçus, c'est le seul livre qui est bon. Bah, on ne donne pas notre Goncourt de la nouvelle cette année, parce que vraiment... Après, on le sait, les recueils de nouvelles sont tous inégaux. Il y a forcément des nouvelles qui sont meilleures les unes que les autres. Mais systématiquement, si ça peut parfois correctement commencer, ça se termine systématiquement mal. C'est même pas une question d'histoire, parce que parfois, il y a des histoires qui sont correctes, qui sont intéressantes. On a envie de savoir où on va aller. Comme cette femme, à un moment donné, qui embauche cette femme de ménage et elle tombe plus ou moins amoureuse du mari. Et elle, donc, la femme est jalouse et elle va la suivre. Bon, je raconte pas tout. Et on se dit que c'est très intéressant. Et en fait, ça se termine mal systématiquement. Et puis, il y a cette écriture à la fois snob, à la fois méprisante. J'avais l'impression de me recevoir des gifles systématiquement à chaque fois que je la lisais. Donc, c'était pas très agréable. Et puis, en plus, je me suis dit, le livre est pas épais. Et pourtant, mais quelle densité de nullité. Je suis désolée, c'est insupportable. Ne lisez pas ça, quoi.
Laurent, ne lisez pas ça?
Bah écoutez, tant mieux pour celles et ceux qui vont aimer ce livre, et tant mieux pour l'autrice s'il s'en trouve. Je les lui souhaite nombreux, parce que, pour ma part, moi j'ai lu ce texte comme un courrier ouvert par erreur, et qui donc, il est assez vite apparu que ça ne m'était pas adressé.
Pour erreur autant, de destinataire. Alors.
Non, mais c'était rédigé dans une langue qui me paraissait à peu près compétente, et quand bien même la portée du propos m'échappait, mais ça avait l'air intéressant, mais je ne suis pas équipé pour savoir en quoi l'intérêt consiste. Mais
à ce point-là, véritablement.
Oui, non, c'est pour ça que je ne vais pas m'aventurer, Dieu sait que je peux m'emporter parfois, mais là, je reste quand même assez intimidé par ce rendez-vous manqué pour ne pas décréter que c'est nul ou que ça ne l'est pas, d'ailleurs. Ce texte et moi, nous sommes passés l'un à côté de l'autre, c'est comme ça. En soi, c'est pas grave. Ça n'a d'ailleurs pas non plus grand intérêt. Sinon, peut-être pour alerter les lecteurs et les lectrices, ou au moins les mettre à l'aise, et que mon cas, si j'ose...
Oui, c'est un cas.
Indique que ce texte n'est peut-être pas fait pour tout le monde, et donc veillez à ne s'y engager qu'en connaissance de cause, ou à ses risques et périls, soit dit en vous souhaitant beaucoup de bonheur.
Jean-Marc ?
Ben, je vais essayer de le défendre.
Ah.
Moi, j'ai trouvé que ce n'était pas un livre inoubliable, mais plutôt agréable à lire. Et je ne suis pas totalement d'accord avec toi, Alice. Effectivement, ça se... je ne dis pas que ça se termine mal. Ça se termine en interrogation, en incertitude pour le lecteur. Et ce n'est pas forcément désagréable dans une nouvelle quand ça se termine et qu'on doit se poser des questions sur la suite. Ce n'est pas ça qui, moi, me rebuterait. J'ai trouvé qu'il y avait des idées intéressantes. C'est toujours des histoires plus ou moins étranges. Il y en a une que j'aimais particulièrement, c'est cette traversée de la Martinique avec un chauffeur de taxi. Il y a une démarche assez oulipienne, puisqu'elle veut, comme le joueur d'échecs qui déplace le cheval sur l'échiquier, faire toutes les villes de Martinique les unes après les autres, toutes les villes et les villages, en utilisant le moins possible de trajet. Et ça donne une nouvelle assez construite, assez réussie, et qui là encore débouche sur une forme d'interrogation. Et surtout, ce qui m'a paru intéressant dans ce livre, c'est qu'en permanence...
C'est gardien de mémoire, en plus, la nouvelle en question. Donc en plus, là, tout est dit. Ouais.
Et elle fait le tour de sa mémoire. J'ai trouvé que dans le par-delà l'étrangeté qui est... qu'on dit vend du livre, il y a un thème, le du double, qui revient de manière obsédante et qui revient sous toutes les formes possibles. C'est une personne qui écrit un roman sur, s'inspirant de, d'une autre personne, et cette autre personne...
Ça, c'est la première nouvelle qui donne justement le « là » est presque la clé de lecture.
Exactement.
Pour les nouvelles.
Voilà, c'est-à-dire que la personne s'identifie tellement au personnage du roman qu'elle va essayer de devenir ce personnage de roman. Et donc, on a des doubles, on a un enfant soldat qui débarque dans la chambre d'un enfant. Est-ce que c'est une sorte de rêve qui conduit à l'adolescence ? On a deux amis qui décident de devenir des sœurs jumelles. On a une conseillère conjugale qui entonne à sa cliente de rire au moment où son type va la larguer. Voilà, ce thème du double qui revient de manière obsédante de le récit, pour moi, est la clé de lecture. Ce qui fait que j'ai trouvé que les nouvelles finissaient par former un tout cohérent. Et à la différence de recueil de nouvelles ordinaires, j'ai trouvé qu'elles étaient toutes assez semblables et du même niveau. J'ai pas trouvé des nouvelles extraordinaire, ni des nouvelles nulles.
Non, mais c'est tragique, parce que là, c'est en train de dire, dans ces cas, parce que tu parles très bien, que c'est bien. Mais c'est pas possible.
C'est pour ça que j'ai dit, je vais essayer de le défendre.
Mais tu l'as bien défendu.
Donc c'est malhonnête, très bien.
Hubert, alors, que pour le moment, il y a match nul, je vais essayer de transformer ça en victoire pour l'autrice, parce qu'effectivement, comme tu le disais, Jean-Marc, effectivement, il y a une cohérence, je trouve, stylistique, mais aussi thématique entre les nouvelles, et je pense que c'est aussi la raison pour laquelle il a eu le prix Goncourt de la nouvelle, parce que souvent, les recueils de nouvelles, c'est des recueils publiés à droite, à gauche, pas à la même date, etc. Là, on s'y retrouve pas. Là, ici, on s'y retrouve. La nouvelle, c'est un genre, soit c'est on brosse un portrait, soit c'est une longue histoire, mais à coups d'ellipse qui devient ramassée et en peu de pages, ça devient une beauté. Il y a un début qui frappe et une chute qui tape, et je trouve que ça, c'est des codes de la nouvelle, hein, que je ne fais que dire et que je n'ai nullement inventé. Je trouve que ces codes sont tous respectés ici, dans un recueil qui en plus aborde une sacrée variété de thèmes, hein, contemporains, modernes, la question du corps, la question de la vengeance, ces deux petites filles aux origines trompeuses, sur leur indiennité. Il y a plusieurs textes qui sont sur l'indiennité des Martiniquais, des Martiniquaises, des Caribéens, et ça m'a fait penser à une autre caractéristique d'écriture que j'ai vue ici et qu'on retrouve souvent chez les autrices et les auteurs qui sont nés en Guadeloupe ou en Martinique, et elle est originaire de la Martinique, notre lauréate, et qu'on voit chez tous celles et ceux qui sont nés après Édouard Glisson et donc encore plus après Aimé Césaire. C'est l'identité qui ne sera jamais figée, donc qui ne peut pas être une identité nationale. C'est ce que Glisson et Césaire appelaient l'identité rhizome, l'identité rhizomique. Et ben, je trouve que ces questions d'identité rhizomique, moi j'aime beaucoup la littérature qui vient de ces hémisphères-là, et j'ai retrouvé ces caractéristiques ici sur l'identité qui ne sera jamais figée, qui sera toujours, non pas de la mondialisation, mais de la mondialité. Je trouve que ça, on le retrouve dans la chair littéraire des histoires, dans la chair de l'écriture, et on le retrouve dans les destins aussi, ces questions de l'indignité, la question de la de l'identité. Moi, j'ai été très frappé et ému par ça. Et en plus, ça alterne le lourd et le léger, parce que la nouvelle que tu pitchais, que tu disais, Laurent, le 1-H-U-N, voilà, c'est quand même quelqu'un qui, et là je cite, n'arrive ni aux uns, ni aux autres, ni à personne. On est quasiment chez Raymond Devos dans cette nouvelle-là, je trouve, avec ses jeux de mots, etc. Et ça, cette variété de lourd et léger, plus la question très césarienne, est venue de chez Édouard Glisson, qui caractérise beaucoup des écrivains d'aujourd'hui, martiniquais et guadeloupéens, m'a saisi.
On a commencé avec un réquisitoire, Alice. On finit avec un plaidoyer de ton côté, Hubert. L'étrangeté de Mathilde T. signé Gaëlle Octavia, prix Goncourt de la nouvelle aux éditions Gallimard. On reste dans l'étrange, le mystère et l'enquête avec Le Dieu des bois de Lise Moore, grand prix des lectrices du L dans la catégorie policier. C'est aux éditions Buchet-Chastel et la traduction est assurée par Alice Delarbre. Je plante le décor, on est en août 1975, un domaine dans les Adirondacks. Alors les Adirondacks, je ne le savais pas, mais ce sont des montagnes situées dans l'État de New York. Un domaine qui appartient à une dynastie de banquiers, les Van Laar. Il y a un chalet suisse, oui, parce qu'il a été transporté et remonté, on l'apprend, pièce par pièce sur place. Et puis, il y a une colonie de vacances, le camp Emerson, pour des ados chics de la grande bourgeoisie, que l'on met en garde avec ce précepte « ne paniquez pas dans les bois ». C'est vite dit, surtout le jour où, et c'est le début du livre, une jeune pensionnaire disparaît. C'est Barbara, pas de chance. C'est la fille vanlard, atypique, elle est plutôt punk, gothique. Les parents ont cherché à s'en débarrasser, mais ça n'explique pas sa disparition. Problème supplémentaire, le propre frère de Barbara avait déjà lui-même disparu 15 ans plus tôt, en 1961, à l'âge de 8 ans. Une policière junior, Judith, d'origine polonaise, va mener l'enquête dans un monde campé sur des positions sociales, machistes, mais le roman est aussi celui d'une émancipation. Les femmes sortent du bois. Et toi, Laurent ?
Parfois, on parle de dispositif choral quand il y a plusieurs personnages. Là, c'est carrément un orchestre philharmonique. Donc, le temps que tout le monde s'installe et s'accorde, ça met un temps fou à démarrer. Mais passer cette mise en place un poil laborieuse, après, ça déroule de façon globalement compétente, même si parfois les allers-retours...
J'adore ce terme de compétente.
C'est du travail bien fait.
On se retrouve à lire, passe un entretien d'embauche.
Oui, j'ai l'impression que tu lis en DRH, souvent. Avec ce terme de compétent qui revient depuis tout à l'heure.
Pas en DRH, en mécano, qui a du cambouis sous les ongles, et c'est donc de mécano à mécano que je distribue des bons ou des mauvais points techniques et artisanaux. Parce que le mystère de l'inspiration, évidemment, tu outrepasse les limites vite atteintes de mon pauvre entendement.
Alors, Laurent,
c'est donc, on parlait de sa compétence, qui est présente, qui est patente, même si les allers-retours dans le temps peuvent servir d'écran de fumée parfois et aider l'intrigue à passer un peu en force ou à cacher un abus de narrateur pas fiable qui mente par omission. Vous voyez, là, il ne s'agit que de technique. Hein. Mais bref, une fois que ça a bien voulu embrayer et se mettre en mouvement, c'est suffisamment bien fait pour être plaisant. Au passage, il y a quelques portraits de filles et de femmes opprimées et oppressées qui sonnent juste, parmi lesquelles une figure signature, comme on dit pour les plats, un personnage de jeune enquêtrice débutante qui a raison seule contre tous. Et ça, ça fait toujours plaisir. Moralité, après tout, pourquoi pas.
Alice.
Moi, je vous trouve très dur, en tous les cas, toujours, mais j'ai adoré...
Ah bah, par rapport à ce que tu as dit tout à l'heure.
Oui, mais elle le méritait. Hein. Moi, je suis sincère, vous êtes malhonnête. Bon, bref. Alors, qu'est-ce que j'allais dire ? Oui, que moi, j'ai même applaudi ce livre à la fin. Ça nous arrive peut-être très rarement, mais j'étais là, bien joué, je te connais pas, Lise Moore, vraiment, félicitations. Je trouve qu'elle crée un suspense bon, qui est inhérent au genre du roman noir, du polar, qui fonctionne extrêmement bien, elle mène sa barque, j'ai été complètement bluffée. Et j'aime bien justement ce personnage de la policière timide, un peu débutante, c'est un peu tous nous, on essaye de bien faire, bon, on est maladroit, et d'ailleurs les personnages ne manquent pas de lui dire bon, vous êtes sympa mais vous êtes toute jeune, vous n'y connaissez rien. Mais ce que j'aime bien dans ce livre, c'est que tout est fait avec beaucoup de subtilité, c'est pas à coup de sabot le féminisme, c'est pas à coup de sabot non plus, l'enquête c'est pas à coup de sabot les personnages qui sont dépressifs. Mais j'ai trouvé que c'était extrêmement mis en scène et que les personnages avaient vraiment une vraie psychologie. Et je me suis attachée à eux et j'avais vraiment envie de savoir un petit peu comment ils allaient vivre après. Donc je ne sais pas s'il y aura une adaptation cinématographique.
Je crois que c'est en route.
Puis bon, après, j'étais ravie de voir que Barack Obama l'avait mis dans ses listes de lecture. Donc je me suis sentie vraiment très intelligente, alors que clairement, pas du tout. Mais voilà, donc vraiment, c'est un beau roman aussi sur l'amour. L'amour qu'on rate, l'amour qu'on regrette, l'amour qu'on salit, qu'on tue, et la beauté et la violence qu'elle crée. C'est un livre aussi sur la violence du silence, les secrets qu'on partage ou qu'on ne partage pas. Qu'est-ce qu'on fait de ces secrets ? Un très beau livre. Vraiment, je l'applaudis encore une fois.
Plébiscité par Alice et par Barack Obama et par toi, Hubert ?
Bah, c'est surtout un livre qui est quand même très long à démarrer. Hein. Tu parlais, Laurent, du chêne.
Non, il faut seulement 200 pages.
Bon, il est quand même trop touffu au début parce qu'il y a quand même une double ligne narrative à la fois.
Oui, 1975-1961.
Dès le début, elle a disparu.
Pardon ?
Dès le début, Barbara a
disparu. Oui. Mais après, quand même, le coup de la double dans l'année 60, 75, etc., il manque quelque chose du cœur au niveau affectif qui fasse comprendre pourquoi, en fait, la racine du problème est là, parce qu'on le comprend, mais c'est un coup de suspense qui, à mon sens, du coup, est trop cérébral. Et j'ai reproché pendant, effectivement, bien 150 pages à ce livre, qui en compte, je crois, 450.
512.
Jean-Marc est un mathématicien.
Qui est très présent dans les littératures de genre
ressenti
maintenant.
Ressenti combien
c'est,
tu n'imagines pas, Laurent.
Bah justement, ouais, c'est une question de ressenti. C'est une mauvaise influence qui vient des séries à saisons, à épisodes, etc., qu'on veut justement faire trop souvent du choral quand on fait du roman à suspense, et que justement on multiplie les trames, les années, les avant, les après. Ça, c'est une mauvaise influence qu'on constate beaucoup quand même depuis 4-5 ans dans le roman noir, quel que soit le continent.
Mais là, ça sert la trame.
Oui, mais c'est la trame, mais du coup, effectivement, on se fait bien mouiller la nuque au début, puis après, on nous ressort la tête et on attend 2 jours pour nous replonger la tête. Donc, du coup, ça a eu le temps de sécher quand même. Mais il faut quand même bien, et je le dis pour notre public et nos éditrices auditeurs, il y a, et là, je ne spoil rien parce que c'est la troisième ligne, au moment où la surveillante découvre que
Barbara a disparu.
Il n'y en a que 8 d'occupés, donc Barbara a disparu. Plus tard, les 10 secondes qui s'écoulent entre ce qu'elle voit et la déduction qu'elle en tire lui apparaîtront comme la preuve que le temps est une construction humaine qui peut ralentir ou accélérer du fait des émotions ou des substances dans le sang. Alors enlevons les substances dans le sang, gardons-nous sur les émotions.
C'est du Proust. C'est juste parce qu'elle était mal réveillée.
J'aime bien quand dans un roman à suspense, il y a quelque chose qui nous dit un peu ce dont il va être question. C'est un roman sur le temps et c'est aussi un roman sur les silences trop coupables dans les familles de gauche, un peu aisées, démocrates en l'occurrence, hein, parce qu'ils se revendiquent aussi comme tels, qui font gaffe avant tout à leur réputation. C'est aussi ça.
Jean-Marc, je te vois trépigner.
Moi, j'ai appris quelque chose, c'est que le mouvement punk avait débarré aux États-Unis en 1975 et pas en Angleterre.
Ce qui, par ailleurs, est faux, en plus, si on commençait à fact-checker.
J'ai vérifié un petit peu, ça semblait vrai, ça m'a surpris.
Parce qu'elle n'était pas née, elle est complètement à la rue.
C'est vrai, les Dead Kennedys, etc. C'est vrai. Dead Kennedys, USA, 76, ça c'est vrai de vrai.
Enfin, pour moi, c'était une découverte et je me suis dit, ce livre m'aura au moins appris quelque chose. Ensuite, comme tu l'as dit à Hubert, c'est quand même long à démarrer. Le premier tiers, c'est 200 pages. On met en place les personnages, le décor. Alors, c'est un peu le mystère de la Chambre jaune. Hein. Les Adirondacks, c'est un labyrinthe, des forêts, etc. Mais c'est un lieu clos. Et on est dans la même logique que le roman de Gaston Leroux. Le deuxième tiers, l'intrigue démarre un petit peu poussivement. Et puis, le dernier tiers, on a la conclusion et elle est un peu décevante. Et je pense que c'est un outil excellent pour les gens qui ont des problèmes de mémoire. Parce que il faut en permanence regarder le début de chapitre. Est-ce qu'on est en 1950? Est-ce qu'on est en 1961? Est-ce qu'on est en 1975? Au premier jour d'août? Au deuxième jour d'août? Au troisième jour d'août? Au premier jour d'août? Qui est qui? Est-ce que c'est la monétrice? La directrice du camp? Est-ce que c'est la policière? La mère de famille névrosée? Non, sa sœur. En permanence, on se demande qui est qui. Et je me suis dit, en fait, c'est un puzzle. Et on prend des pièces, on essaye de les assembler. Et une fois qu'on a réussi péniblement à assembler tout, on regarde le résultat. Et c'est toujours décevant, parce qu'un puzzle, à la fin, c'est moche.
Quelle conclusion. C'est vrai que parfois, un puzzle, c'est moche. Le Dieu des bois de Lise Moore, moi, j'ai particulièrement apprécié. Grand prix d'électrice du L. Encore un prix, alors c'est vraiment un festival ce soir, pour Crimi, la bande dessinée d'Alex Hinker et de Thibaut Vernot, au scénario publié aux éditions Sarbacane. Crimi se focalise sur l'histoire de M. le Maudit, le chef-d'œuvre expressionniste du réalisateur austro-hongrois Fritz Lang. Le film avec Peter Lorre en tueur de série était sorti en 1931. La bande dessinée en retrace l'hypothétique genèse en 24 chapitres. On y suit Lang en 1929, juste après l'échec de son film muet de science-fiction, La femme sur la lune, un échec qui le pousse à vouloir changer de voie. Et c'est là, à Berlin, qu'il va rencontrer Lohmann, l'inspecteur Lohmann, qui lui propose de réaliser un film sur un tueur en série, l'abominable Peter Kürten, le vampire de Düsseldorf, meurtrier et violeur d'enfants. Alors il faut savoir que Lohmann est un personnage de fiction inventé par le scénariste. Ça fait donc sortir la BD de toute tentation.
C'est pas un personnage de fiction inventé par le scénariste.
Il est dans le film.
Il est dans le testament du docteur Mabuse.
Voilà. Mais c'est un personnage de fiction dans l'histoire qui nous est racontée. Non, heureusement que vous êtes là pour bien expliquer les choses.
Ah non, mais il y a des Languiens dans la salle.
C'est vrai. Donc, ça fait sortir la BD de toute tentation documentaire pour y trouver des accents noirs que le dessin va vraiment sublimer. Des jeux de gris au fusain, estompés à la gomme, des personnages en ombre chinoise, des décors stylisés. On retrouve sans effet de copier-coller, je trouve, la grammaire du cinéaste pour faire apparaître un monde crépusculaire qui correspond aux derniers jours de la République de Weimar. Jean-Marc, as-tu été le spectateur de ce théâtre d'ombre et de secrets?
Bon, moi je suis un admirateur de Fritz Lang, donc cette bande dessinée m'a absolument ravi.
Ça aurait pu être le contraire.
Je trouve que tant du point de vue du graphisme que du scénario, c'est très réussi. Ce noir et blanc, ce gris permanent, on est vraiment dans l'esthétique de la première période allemande de Fritz Lang, mais aussi déjà dans la période américaine, où il va être un des maîtres du film noir. Je trouve que l'idée scénaristique de prendre l'inspecteur Lohmann pour emmener Fritz Lang, le prendre par la main, être son inspirateur, l'emmener sur les traces du vampire de Düsseldorf, dans des scènes de crime, d'aller voir des truands. Et il y a en permanence des éléments de chassé-croisé entre cette fiction et le film lui-même. Par exemple, Fritz Lang, très observateur, voit un personnage en ballon de baudruche coincé dans des fils électriques. C'est une des premières scènes d'M le Maudit. Et ce ballon de baudruche va irriguer toute la bande dessinée. Il va effectivement recruter des personnages de la pègre pour faire les figurants dans la dernière scène d'M le Maudit. Dans une interview, il disait qu'il y avait eu 24 arrestations sur son tournage. Je trouve que le graphisme est sublime. C'est-à-dire que la tête de Loman, on dirait W.C. Fields, alors que dans les films, on le voit avec son porte-cigarette, là on a l'impression qu'il est en permanence en train de mâchonner un cigare, et ce qui rajoute bien au côté un peu veule et gras du personnage. À un moment donné, il y a Peter Lorre qui se regarde dans un miroir. Je pense qu'on ne peut pas faire à la fois plus malsain et maladif que cette scène-là. Tout est vraiment remarquablement fait. Et puis, je trouve que la transcription de la République de Weimar et l'arrivée du nazisme se voit à la fois dans le scénario et dans le dessin. On passe d'éléments graphiques qui sont le cinéma expressionniste allemand, dont Fritz Lang est un des grands maîtres, à plutôt la période film noir, M. le Maudit, Testament du docteur Mabuse, où il y a encore des traces d'expressionnisme. Donc on navigue entre deux époques. Donc, c'est vraiment un livre, à mon avis, qui est recommandé. En plus, c'est un très très bel objet, grand format, enfin à mettre dans toutes les bibliothèques.
Alors, c'est dur à emporter en vacances, hein, parce que même Laurent, comme bodyboard, peut-être que ça fait.
Non, mais je t'interdis d'en dire du mal.
Écoute, moi je voudrais féliciter l'éditeur, car effectivement c'est un objet
superbe,
monumental et impressionnant. Le papier sent bon.
Non, mais c'est, tu me fais peur, Laurent.
L'impression aussi est de la belle ouvrage, parce que les grilles sont déclinées en plus de 50 nuances.
Bravo.
Ici manifeste aussi de l'intelligence et de la virtuosité graphique, avec les cadrages acrobatiques, les ombres, les lumières.
Mais ça, c'est fidèle au cinéma de Fritz Lang.
Ouais. C'est la façon de transformer de l'érudition en récit. Enfin, tout ça. Donc, on peut considérer qu'il n'y a que du bien à en dire.
Mais
cependant, si on devait formuler une réserve à propos de ce très bel objet si réussi, c'est précisément
qu'il est trop réussi.
Non pas d'être un bel objet très réussi, mais d'en être trop conscient. Je veux dire que l'intelligence et la virtuosité finissent par devenir leur propre sujet, et que le style attire en permanence l'attention sur son ingéniosité, son élégance froide, son bon ton, son recyclage effectivement astucieux au-delà de l'imaginable, de bouts de trivia ou de vrais pans d'érudition. Mais le lecteur, finalement, est tenu à distance, ou du moins, enfin, le lecteur que je fus, davantage incité à applaudir les astuces et les prouesses des auteurs qu'à se laisser embarquer par l'histoire. Donc, en fait, au-delà de ce livre qui est, oui, effectivement, réussi, qui ne m'a pas bouleversifié, mais devant lequel je suis obligé de m'incliner, parce qu'il y a de l'intelligence, il y a du talent. Plus généralement, j'ai envie, à son propos, de dire que les romans graphiques, par rapport aux illustrés italiens ou aux comic books, ça me fait penser au rock progressif, au triple album ou aux opéras rock, c'est-à-dire que c'était vendu dans des beaux coffrets cartonnés, les concepts étaient très intelligents, les musiciens étaient virtuoses, mais on se fendait quand même plus la gueule à écouter des 45 tours idiots très très forts.
Voilà. Hubert, c'est une superbe histoire et un superbe objet d'art, mais au sens démocratique du terme, pas au sens élitiste. Pour commencer, faut quand même dire que Krimi, qui est le titre, mais Krimi, ça désigne le roman policier allemand, surtout du début du XXe siècle, exactement comme Polar surnomme ou désigne le roman policier français. Il y a plein de ces, c'est une poupée gigogne, cet objet d'art, c'est bourré de clins d'œil dans le titre, qui vaut pour le cinéma de Fritz Lang et tout le cinéma expressionniste. Je trouve que effectivement, ce qui m'a scié et ce qui a fini par m'emporter, ce que j'appréciais, c'est l'incarnation dans Steve, par l'imagination des auteurs, l'incarnation de certaines dimensions du film. Par exemple, le film, il a été réalisé et sorti en pleine montée du nazisme en 1931, tu l'as dit, Laurent, et M. le Maudit, c'est une interrogation dérangeante sur l'aspect criminel de la société. Or, il y a des pages où, en deux, trois cases, on a un individu qui voit son visage tout d'un coup coiffé d'un casque de la Wehrmacht. À un moment aussi, pareil, c'est en une page et quelques cases et quelques dégradés de gris, on a un personnage interrogé qui va, en deux, trois cases, se trouver avec une mèche bizarre et une mini moustache un peu bizarre. C'est que des choses comme ça, des détails qui sont tellement talentueux, et je ne suis pas d'accord. Là, je ne trouve pas qu'il se regarde faire la virtuosité, etc. C'est la boucle est bouclée à tout point de vue, artistiquement, narrativement.
Alice.
Que dire après tout ça, à part que vous avez tous raison, vraiment, c'est un...
Même Laurent ?
Même Laurent ?
un peu, mais je vais mettre un bémol. Je vais quand même mettre un bémol, mais ça sera pas le même. Je trouve que on est tous d'accord pour dire que la BD, le roman graphique est absolument éblouissant. C'est un objet magnifique, et c'est vrai que pour l'emporter, par contre, en vacances, compliqué. Mais moi, je me suis demandé au tout début où le narrateur voulait nous amener, parce que je me suis dit bon, ok, le camaïeu de noir est absolument sublime, et sur cette base-là, vraiment sur le graphisme, l'esthétisme du dessin, je me suis dit je vais y aller de toute manière. J'ai envie de savoir ce qui va se passer, et ça a marché. J'y suis allée jusqu'au bout. C'est hypnotisant. Ça m'a même donné envie de revoir le film M le maudit, et je me suis dit à quel point il avait réussi à capter l'œil de Fritz Lang. C'est assez impressionnant sur les gros plans, sur les traits des personnages, les traits des acteurs. C'est
l'œil de Fritz Lang, parce qu'effectivement, il y a cette interrogation.
Et une légende aussi, voilà.
Était-il vraiment borne? Comment ça lui est arrivé?
Et ça, c'est véritablement un épisode très important, et ne nous spoilerons rien.
Donc,
Alice.
Tout est magnifique, et je suis tout à fait d'accord. Mais mon bémol n'est pas là. Mon bémol, et on est dans des lieux interlopes, on est dans des bordels au tout début, donc il y a forcément des scènes avec des gens dénudés. Et ça n'est pas une remarque ni féministe, ni idéologique, ni rien que je vais faire, mais je pense qu'il y a une prépondérance quand même à vouloir s'attarder à représenter le sexe de la femme à de nombreuses reprises, là où le sexe de l'homme, lui, est juste dans l'ombre. Je me dis, bon, là, à ce moment-là, qu'est-ce que ça m'apporte de plus dans la narration? Absolument rien. Après, il le présente très bien. Franchement, je trouve que c'était très bien fait.
Effectivement, il y a un peu trop de digressions, et c'est ce qui fait aussi la limite, parce que ça, c'est une digression, ce que tu viens de dire, et il n'y en a pas besoin. L'histoire d'amour passé de Fritz Lang, là, il n'y en a pas besoin. Et
c'est un détail, limite. Vraiment,
je pense que si on n'est pas fan du cinéma de Fritz Lang ou de l'art de ce moment-là, on s'arrête, on n'a pas envie pour le coup.
Mais vraiment, en tous les cas, ça donne envie de voir ces films, ou en tous les cas de les revoir.
Crimi de Vinker et Vermeaux, apparu aux éditions Sarbacane. On passe tout de suite au dernier livre, c'est le premier roman de Simon Chevrier, 32 ans, photo sur demande aux éditions Stock, Goncourt du premier roman. 2025, le narrateur a l'âge d'être étudiant en fac à Toulouse, licence d'anglais, mais son quotidien n'a pas grand-chose à voir. Il est vendeur, il est gardien de nuit dans un hôtel, et il passe le plus clair de son temps sur Grindr, l'application de rencontres gays. Des rencontres, il en fait, elles sont tarifées, comme avec l'annonce « étudiant en langue, amant sur mesure pour hommes cultivés, prix et photos sur demande ». Et en effet, la photographie est bien le centre de ce récit, avec une obsession que nourrit ce jeune homme pour un cliché du photographe queer Peter Hujard de 1981, bien sûr, en pleine épidémie du sida, et Peter Hujard en mourant en 87. Sur cette photo, on y voit un jeune garçon, le corps plié, qui se suce le doigt de pied. Nom du modèle, Daniel Schock. Et le narrateur va alors s'employer à tout savoir sur lui, dont on ne connaît pas grand-chose, sinon rien. C'est comme s'il avait en fait trouvé son homme, celui qui recherche sur Grindr, ou quand il fait l'escorte, au moment même où il pourrait perdre son père malade. Jean-Marc, quelle est ton analyse?
Moi, je ne vais pas passer beaucoup de temps sur le plan littéraire. Je trouve que ça se lit, mais ce n'est pas grandiose. En revanche, sur le plan sociologique, j'ai trouvé ça vraiment passionnant. Pour moi, c'est un roman des années 80, écrit en 2025. Et le fait que ça démarre en 1981 avec cette photo dit beaucoup. J'ai vraiment eu l'impression de lire des romans de jeunes homosexuels dans les grandes villes des années 80, mais à la sauce 2025, et ça nous dit tellement sur les changements qui se sont opérés en quatre décennies que je pense que ce livre mérite d'être lu pour ça. Et je vais vous donner quelques exemples du plus anodin au plus important. Anodin, c'est la coloc. Dans les années 80, c'est pas un sujet. Aujourd'hui, quand vous avez 20 ans, quand vous avez 30 ans, c'est le passage obligé pour le logement, et il en parle en permanence dans le roman. Deuxième élément géographique, le roman se passe à Toulouse. En 1980, un roman comme ça se passe forcément à Paris. C'est impensable dans une ville de province où vous rasez les murs quand vous êtes homosexuel. Troisième élément, la famille. Son père, sa mère savent qu'il est homosexuel, c'est même pas un sujet. Ça nous dit tellement sur les changements et la tolérance progressive de la société française en 40 ans que c'est important. Ensuite, les applis. Relations tarifées, avec des hommes ayant passé la cinquantaine, un peu bedonnants, on échange quelques
billets. Voire plus, des fois.
Ça ne se passe plus dans des pissotières ou dans les jardins du Trocadéro, ça passe uniquement par le numérique, par Grindr, par Giton. On lui demande s'il a un compte OnlyFans, Instagram, etc. Tout est numérisé, c'est une forme de sécurité. Et puis, évidemment, la question du sida, qui est omniprésente dans ses romans des années 80, et qui, là, n'est pas omniprésente, mais elle irrigue un petit peu le récit quand même. Mais le changement déterminant, c'est que quand il a un rapport non protégé, dans le roman il en a deux, il va à l'hôpital et on lui donne un traitement préventif, le PrEP, qui dure 30 jours. Et donc, faire l'amour, c'est plus la guillotine. Et ça, c'est un changement fondamental qui a été, même si on est loin d'avoir le vaccin contre le sida, on l'a pas encore, mais bon, on l'annonce, il y a ce changement structurel de la vie des homosexuels qui ne sont plus en permanence menacés de mort dès qu'ils font l'amour, c'est quand même fondamental. Et j'ajoute qu'il y a quand même un virus qui circule. Et ce virus qui circule, c'est le Covid. Il touche tout le monde. Et ça, c'est une véritable ironie. D'autant plus que la seule personne qui meurt à l'hôpital, c'est son père. Et il meurt d'un cancer. Donc on est dans quelque chose de banalisé. Alors que le sida envoyait des cohortes de jeunes homosexuels mourir et finir dans les cimetières.
Ah bah avant 1996, on mourait.
Voilà. Donc ça, c'est une lecture sociologique. Mais d'un point de vue littéraire...
Je termine. D'un point de vue littéraire, ça reste un roman des années 80 aussi. Parce que ça reste un roman de la recherche de l'amour et de la solitude. Et il cite cette phrase d'Annie Ernaux, « Depuis des années, je n'ai rien fait d'autre qu'attendre un homme, attendre qu'il se manifeste. » Et c'est quelqu'un de profondément seul qui passe beaucoup de temps dans sa chambre à scroller sur son téléphone et à attendre l'amour.
Alice.
Je suis tout à fait d'accord avec tout ce que tu as dit. Bon, décidément, je suis d'accord.
Ça ne m'étonne pas.
Non, mais ce que j'ai trouvé très touchant, notamment dans l'écriture, c'est qu'au tout début, on peut être un peu décontenancé parce que ça, on se dit c'est très simple, c'est des phrases très courtes. Mais j'ai trouvé que c'était faussement simple derrière une écriture qu'on pourrait qualifier de blanche. Il y a vraiment un cœur qui bat. Et ce personnage, donc, s'il n'est pas dépressif, en tous les cas, il est angoissé, il saute d'un paragraphe au lit d'un client. C'est cru, c'est parfois cruel dans les relations dont il peut nous parler. Mais je trouve que son intimité n'est pas là. C'est pas quand il est nu, mais c'est quand il nous parle de son père, quand il nous parle de l'amour qu'il ressent pour son père. Il y a ce va-et-vient de la violence du corps, finalement, qu'il essaie d'éprouver, qu'il essaie de sentir pour se prouver qu'il est vivant, et le corps de son père qui va mourir. Et on est dans le prosaïsme, et en même temps, c'est ça qui rend le réel extrêmement bouleversant et qui rend le réel, qui est anodin, quelque chose d'assez étonnant. Par exemple, quand il doit aller à son enterrement, c'est quelle tenue je vais porter. C'est des choses qui relèvent aussi le réel dans la fiction. Mais par contre, par rapport à l'homosexualité de l'auteur qui revient, que je trouve absolument d'une justesse absolument folle, j'ai lu dans la presse qu'il avait pu être comparé à Guibert, et pas du tout. D'ailleurs, l'auteur le dit lui-même, qu'il n'a pas lu du Guibert, parce que l'auteur, il a lu Guibert, mais qu'il l'a lu écœuré, parce que Guibert, lui, plonge dans la douleur, là où Simon Chevrier, lui, suture. C'est pas un spéléologue, c'est un couturier. Et j'ai trouvé que c'était extrêmement juste, très pertinent, et que vraiment, on gagne à vraiment le lire. C'est très beau.
Hubert.
Alors, je souscris à ce qui vient d'être dit, sauf que je trouve que c'est aussi la limite du livre, parce qu'effectivement, sociologiquement, générationnellement, politiquement et sur les mœurs, etc., il y a Escort Boy, hein, encore plus que sur des rencontres vraiment tarifées. Mais c'est le roman, je me dis, pas mal, yes, but so what. J'aime bien ce qui est approché, mais je trouve que c'est trop, c'est à la fois un roman sur le deuil du père, et moi, les passages qui m'ont le plus emporté, c'est avec pudeur, justesse et suspense aussi, comment, et je ne dirais pas comment ce que le père meurt, on sait de quoi il meurt, enfin, je ne dirai pas quand, au bout de combien de temps, etc., parce que c'est très très bien amené, la façon dont il sort, où il rentre dans ces récits de la mort du père et dont il n'arrivera pas à se défaire de la figure absente du père, qui est toute la seconde partie du livre, m'a beaucoup emporté. Alors qu'au début, on pense que c'est un roman justement sur les applications de rencontres, la trouvaille de l'amour ou pas, ou sur justement l'obsession artistique. Donc du coup, ça m'a rappelé à la fois Édouard Levé, ça m'a rappelé à la fois Cyril Collard, qui justement, dans l'obsession artistique, qui lui faisait du sida son propre sujet, son propre suspense, sauf que justement c'était le principal sujet, là on sait pas quel est le principal sujet. On a beaucoup de beaux sujets bien amenés, pas trop mal écrits, mais on a du mal à il boucle pas la boucle. Alors c'est un premier roman, certes, mais je trouve que c'est peu mieux faire, c'est yes but so what.
Monsieur le RH.
C'est compétent.
Ah ben voilà, c'est ce que j'attendais.
Non, mais blague à part, il y a effectivement trois dynamiques, hein, comme vous l'avez énuméré, il y a sept photos, le sexe tarifé ou non, et puis le deuil pendant le Covid, car ça se passe pendant le Covid, qui est un paramètre qui s'invite et qui va s'inviter forcément encore quelques temps dans les fictions que nous croisons. Et moi, je trouve vraiment que les trois sont assez habilement tricotés et que la conversation que le texte leur fait entretenir est fructueuse et qu'à l'arrivée, ça compose le proverbial « tout supérieur à la somme de ses parties ». Vous avez parlé de la blancheur ou la platitude, mais au sens éventuellement noble du terme, de l'écriture. Oui, c'est ce ton très détaché qui est en vogue depuis maintenant 40 ans, parce que ça fait aussi penser au Bret Easton Ellis débutant, par exemple. Ce ton détaché pour dire des choses très crues, qu'il s'agisse de sexe ou de deuil. Et le procédé produit des effets pas inintéressants, parce que d'une façon a priori contre-intuitive, les pages sur la mort du père sont presque plus pornographiques que les récits de prestations sexuelles. De même, cette prose clinique et désengagée rend plus avilissante et plus attentatoire à l'intégrité de l'individu, les protocoles de recherche d'emploi ou les conditions d'inscription dans un dispositif professionnel classique, plutôt que les scènes de prostitution. Et rien que ça, je trouve que ça mérite qu'on s'y arrête deux secondes. Donc c'est un premier roman, et il faut créditer son auteur d'un projet littéraire cohérent et tenu, donc
d'une compétence affichée.
Photo sur demande, c'est le premier roman de Simon Chevrier, prix Goncourt du premier roman 2025 aux éditions Stock. Et il est temps de conclure assez rapidement, je vous préviens, les unes, les uns et les autres, avec le meilleur de ce que vous avez pu lire, voir, écouter. Ce sont donc les coups de cœur du masque. On commence par, par toi, Jean-Marc.
Alors, mon coup de cœur est un prolongement de Crimi, puisqu'en fait, c'est un autre roman graphique et qui se passe également en Allemagne, s'appelle Columbusstrasse. C'est une histoire de famille 1935-1945 par un Allemand qui s'appelle Tommy Damon, qui a plongé dans les archives familiales et qui nous raconte la vie d'une famille ordinaire, sa famille maternelle, sa famille paternelle, durant la décennie des nazis au pouvoir. Et ce qui est vraiment intéressant dans ce livre, c'est que c'est des familles qui essayent de vivre une vie à peu près normale dans un système qui l'est de moins en moins et qui finissent par survivre. Et c'est une multitude de détails qu'on ne connaît pas de la vie allemande. C'est deux adolescents qui veulent échapper au lycée, et pour échapper au lycée, ils vont dans la Wehrmacht. Et puis c'est des détails, on regarde les voisins juifs par la fenêtre parce qu'ils font la bar mitzvah, et on regarde les lampions, et puis après on regarde également par la fenêtre la nuit de cristal, et puis un jour la petite fille veut regarder par la fenêtre et on lui dit qu'il n'y a plus de lumière parce que ça fait longtemps qu'il n'y a plus personne en face. C'est à la fois documentaire et c'est un beau roman graphique.
Chez Robinson, c'est ça ?
Chez Robinson.
Alice.
Moi, je vais vous parler de Du bleu est la couleur la plus rare, publié aux éditions du Rivage, de Sarah Schmitt. Alors, j'ai envie que vous imaginiez la scène suivante. On est en Australie, le jour hésite un peu avec la nuit. On est dans une maison, là, il y a une femme, Eleanor, qui tient son bébé dans ses bras. Le mari dort encore. Elle se lève, elle évite une chaise, elle évite une table. Elle ouvre la porte, donc elle va dehors. Elle allume le moteur de la voiture, mais là, elle se dit, est-ce que ça va le réveiller ? Parce que le mari lui a dit, si jamais tu me quittes, je te bute. Ce sont littéralement ses mots. Le moteur s'enclenche, elle roule et personne ne se réveille. On tourne la page et là on se dit mais on a vraiment quelque chose d'exceptionnel entre les mains, c'est haletant, c'est éblouissant, c'est magnifique, c'est beau, c'est bouleversant. Donc de quoi ça parle ? Dedans on suit deux couples, celui dont je viens de parler, Eleanor et son mari, et celui des parents d'Eleanor. Donc c'est deux générations avec leurs enfants, on traverse deux guerres, des années 40 aux années 70, et le champ de bataille va s'inviter dans le salon, et les victimes vont devenir collatérales. On est rongé par les traumatismes, la solitude, l'enfermement, les secrets. C'est un livre sur la reproduction des schémas familiaux et amoureux. Est-ce qu'on est toujours l'enfant de ses parents ? Et est-ce qu'il suffit d'avoir un enfant pour devenir un parent ? C'est magnifique, c'est pas très long, 330 pages, lisez-le, c'est sublime.
Le bleu est la couleur la plus rare de Sarah Schmitt aux éditions Rivage Hubert. Rapidement.
Alors moi, je vais vous emmener, alors c'est une maison d'édition marseillaise qui s'appelle Les Cahiers, qui a entrepris avec une autre maison d'édition marseillaise, Héliotrope, la réédition ou la retraduction d'un auteur qui m'est très cher, Claude Mackay, qui était Claude Mackay, il est né en 1890 en Jamaïque, qui est mort à Chicago en 1948. Entre-temps, il a été serveur à Harlem, marin en Méditerranée, journaliste gauchiste à Londres. Il a été participé à la révolution d'octobre en 1922 en URSS. Il a vécu à Marseille, au Maroc, à Barcelone. C'est, vous voyez, Blaise Cendrars, il y a du Chester Heim, il y a du Aimé Césaire, qu'il a d'ailleurs croisé, il y a du James Baldwin, etc. C'est tout ça la littérature interlope, migrante, migratoire, humaniste. Et les nouvelles étant un bon moyen toujours de découvrir aussi une auteure ou une autrice, et bien ce sont des recueils de textes de nouvelles donc, qui se passent à Harlem, Jamaïque ou Marseille. Ça tombe bien, c'est le titre du livre, Harlem, Jamaïque, Marseille, traduit par Françoise Boudarlier, paru en cette mi-juin aux éditions Les Cahiers de Claude Mackay, qui est un auteur vraiment à découvrir.
Laurent.
Je voudrais signaler l'existence du premier roman d'un dénommé Alexandre Lamboureau. Le roman s'appelle Pâture. On ne sait pas grand-chose de l'auteur, mais à partir d'un fait divers périurbain tristement banal, il réussit à construire une tragédie éternelle et élémentaire qui fait penser à un Nicolas Mathieu sous psychotrope. D'une part parce qu'il sait trouver des mots pour raconter l'adolescence en fusion, mais surtout parce qu'il pratique une espèce de naturalisme lyrique qui fait crépiter la langue. Alors même quand on pense que le gars en fait trop, au moins on le crédite de sa générosité, de son engagement. Il mouille le maillot, il essaye, il assume, ça se lit tout seul. Et c'est super excitant d'assister à l'éclosion d'un talent qui, en toute logique, n'en restera pas là. Alexandre Lamboureau, Pâture, chez Lattès.
Quant à moi, j'ai choisi Les Carnets d'Ukraine aux éditions Alary de Michel Hazanavicius, le réalisateur, bien entendu, un livre rapide de notes, de dessins, pris sur le vif d'un voyage à Kiev et sur la ligne de front en novembre 2023. Et c'est bien justement un sentiment d'immédiateté qui frappe à la lecture de ses carnets pour rester au plus près des rencontres qu'il y fait avec des hommes, des femmes, tous en guerre. Il n'y a pas de grands gestes, comme à la Bernard-Henri Lévy, pas de discours. Ce qui est poignant, c'est de penser que l'homme, par exemple, qui sourit, qui est dessiné dans les premières pages, qui est Dima, un héros national de 28 ans à l'époque, que l'homme tranquille de 24 ans de la page 144, ou que Bulette, 9 ans, et les autres, sont comme en suspens, en fait, dans ce livre, et qu'un jour, peut-être, on apprendra leur disparition. Et bien voilà, c'est fini, le masque tombe, on range la plume. Alice Develay, Hubert Artus, Laurent Chalumeau et Jean-Marc Proust, merci tous les quatre d'avoir participé à cette tribune. Merci aux équipes et au public de l'Alliance française à Paris. Et à vous, auditeurs, auditrices, l'émission a été réalisée par Guillaume Giraud, la technique Bruno Morland, Nicolas Depagraf, Maxime Deperetti. Merci à Elinka Negulesco qui a préparé et programmé ce masque. Merci à Laura Dumez qui en a pris le relais avec brio. On se donne tous et toutes rendez-vous dimanche prochain. Retour au cinéma.